Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Nathan, qui, provisoirement installé à Mont-Laure, s'est récemment investi dans la profession d'apiculteur.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Donc bonjour, moi c'est Nathan Condamine, donc 29 ans, apiculteur professionnel depuis février 2021. Donc je suis installé à Mont-Laure, actuellement dans les locaux de mon père qui est agriculteur. Et j'ai pour projet de faire un bâtiment plus tard sur la commune de Vabre à Reissac.
Voilà. Tu faisais déjà un peu d'apiculture avant de t'installer ?
Je faisais de l'apiculture, j'ai fait de l'apiculture, ça fait à peu près 5 ans je crois que j'ai commencé. Donc on a commencé doucement en rachetant un rucher avec mon père qui m'a initié à l'apiculture parce que lui il a eu déjà, il est monté jusqu'à 200 ruches plus jeune.
200 ?
Ouais, wow. Quand il est avec un copain à lui. Donc il m'a initié, on a, d'année en année on a augmenté le cheptel. Et puis moi j'avais un boulot au parc des Grands Causses à Millau qui me plaisait pas forcément, je travaillais dans l'assainissement. Donc je cherchais à faire autre chose. Et puis du coup, ben, je me suis pris un peu de passion pour les abeilles. Et donc de fil en aiguille, je me suis orienté pour voir si je pouvais pas faire un métier. Et donc on a augmenté le cheptel jusqu'à arriver à 200 ruches. Moi j'ai fait un BPR apiculture en parallèle. Mmh. Et puis arriver à 200 ruches, c'est le minimum en fait pour... s'installer en tant qu'apiculteur professionnel. J'ai racheté le cheptel à mon compte et je me suis installé en février.
Et comment on fait pour trouver des abeilles ? Il y a des réseaux, il y a des par connaissance
Ouais, alors au début, ben, on récupère ce qu'on nous donne, quoi, les essaims sauvages. Là, c'était un rucher à Sylvanès qu'on avait récupéré au tout début, je me souviens. Puis après, on a acheté des essaims chez une apicultrice. On a continué à acheter d'autres essaims et puis en fait, on a eu la chance un jour, en voulant acheter des essaims, d'acheter des essaims à un professionnel dans le Tarn. Et du coup, quand on a récupéré ces essaims, ben, c'était un peu la nuit et le jour avec ce qu'on avait avant. Ouais. Et donc au final...
Pourquoi c'était la nuit et le jour ? Parce que
c'était des abeilles qui étaient pour faire du miel, quoi, ouais. Qui étaient beaucoup plus douces, qui faisaient du miel, qui étaient faciles à travailler. Et donc ça a changé de ce que des abeilles sauvages d'ici. Ouais. Voilà. Et ça m'a permis de rencontrer cet apiculteur qui est devenu par la suite mon maître de stage et qui aujourd'hui est un ami. On est toujours en contact. Quoi. Et c'est D'accord. un peu mon mentor à l'apiculture.
Et c'est quoi comme espèce d'abeille que tu as ?
Moi j'ai de la Buckfast.
Buckfast.
C'est ça. C'est un croisement. Issu de plusieurs abeilles. En fait, c'est un moine, le frère Adam, qui a fait des croisements à l'époque pour essayer de trouver une abeille. À la base, c'était pour résister à une maladie, parce qu'il s'était fait, il était en abeille noire en Angleterre, dans une abbaye, et il s'est fait décimer ses ruches par la nosema, et du coup, il a essayé de croiser ses abeilles avec d'autres races, qui étaient, elles, plus résistantes à la nosema. Et du coup, de fil en aiguille, il a fait d'autres croisements pour faire... une abeille qui fait plus de miel, et il en est arrivé à faire... maintenant, on considère que c'est une race, parce que c'est assez stable, la Buckfast, quoi.
Très bien.
Bon, j'ai pas que de la Buckfast, mais en grande... les 95%, c'est ça, quoi.
D'accord. Sur tes ruches, tu n'exploites pas que le miel, j'imagine ?
Si.
Ah, si ?
J'exploite que le miel.
Tu fais pas de la propolis, de gelée royale, de la cire ?
Pas de pollen. Peut-être du pollen à l'avenir, mais en fait, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de travail... rien qu'avec le miel. Après, si je récupère ma cire à moi pour en faire des nouveaux cadres, donc ça, on récupère la cire quand même. Ouais. Voilà. Mais après, je commercialise rien d'autre que du miel issu de mes ruches.
Lorsque tu t'es reconverti, puisqu'on peut parler de ça, quitte à avoir un BPR, tu t'es pas dit, tiens, je pourrais peut-être essayer une autre branche de l'agriculture, ou c'était forcément les abeilles qui allaient t'intéresser ?
C'était forcément les abeilles.
Ouais. Toute la démarche vient des abeilles, quoi, dès le départ.
Ouais. Toute la démarche vient de là, mais j'ai un père agriculteur, je suis un peu issu de ce milieu. Au début, je voulais mêler les deux, reprendre, faire un peu d'abeilles et un peu d'agriculture. Puis en fait, c'est beaucoup trop de boulot et ça tombe au même moment. Enfin, c'est un peu... L'année où je suis monté à 200 ruches, j'ai bien compris qu'il fallait faire un choix.
Et tu les transhumes, tes ruches ?
Ouais, Je transhume les ruches, donc elles sont... On va démarrer d'une saison normale. Au printemps, elles sont toutes dans le rougier, plus ou moins, quoi. De Camarès jusqu'à Bournac, des fois à 5 minutes d'ici.
D'accord. Il y a déjà de quoi butiner.
Ouais, alors ça démarre, moi, dans mon système, je démarre sur la bruyère blanche. C'est une bruyère qu'on retrouve, là, sur les coteaux. Et, bon, ça fleurit plus ou moins... Des fois, il y a des années où il y a beaucoup moins de fleurs que d'autres, comme cette année. Et ça, ça démarre bien les colonies, donc j'arrive à faire un peu de miel sur ça. Puis après, c'est du miel de printemps. Et entre le, ouais, jusqu'au 10 juin, quoi, 10-15 juin, elles sont dans le rougier. Et après, je les transhume, parce qu'ici, il commence à, habituellement à faire très chaud et à ouais. plus avoir beaucoup de ressources. Et après, je les bouge au châtaignier, en montagne. Ouais, châtaignier, montagne pour le toute-fleur, et après je finis pour le tournesol.
Alors, le châtaignier, tu vas aller les chercher sur les contreforts du Léveseau ou un truc comme ça?
Vallée du Tarn, Vallée du Rance. Hein.
Donc du coup, tu produis genre de mars à octobre?
Non, la production c'est avril, ouais. 15 avril habituellement, pas avant quoi, jusqu'à le tournesol. Moi, il faut que fin juillet je fais plus de miel quoi.
Ah oui?
C'est fini, ouais.
Ah, la saison est courte.
Ouais, ouais, courte et à la fois assez longue.
Oui, ouais, c'est du non-stop. Hein.
Ouais.
Et tu portes bien ça, les abeilles, la
transhumance?
Ouais.
Du moment qu'on les amène à un endroit où il y a des fleurs, elles sont contentes.
Hein. Ouais, d'accord. Il faut faire ça de nuit, non, je crois?
Moi, je fais ça de nuit, ouais. On peut faire ça le matin, de nuit, tôt, avant que le soleil se lève. Et moi, je fais la nuit parce que si jamais on a un problème, ça nous laisse toute la nuit pour trouver une solution.
Et on fait ça la nuit parce qu'elles dorment?
Parce qu'elles sont toutes dans la ruche.
Ah, parce qu'elles sont
toutes. Parce que toutes les abeilles sont rentrées.
Et alors, comment ça se passe quand tu vas poser tes ruches? Il te faut une demande, enfin, il te faut une autorisation de la commune, du propriétaire du terrain, comment ça se passe?
Le plus souvent, c'est chez des privés, chez les propriétaires. Il n'y a qu'un seul rucher que j'ai qui est communal. Et non, moi, ce que je fais, c'est que je vais repérer les coins qui me semblent intéressants par rapport à la végétation. Et je me débrouille pour trouver le nom du propriétaire, et puis je vais le voir, et j'y demande si je peux poser des ruches en échange de miel à la fin de l'année. Moi, je leur donne 5 kilos par emplacement.
Ça arrive que c'est des gens qui se disent « non, non, j'en veux pas ».
Ouais, ça arrive. Ah, oui. Ça arrive, des gens qui sont soit allergiques, soit qui ont peur des abeilles, ou d'autres qui veulent pas être embêtés.
Ouais, c'est ça.
Puis bon, des fois, c'est pas évident de trouver un endroit, parce qu'il nous faut quand même des endroits assez accessibles. Où c'est assez plat pour qu'on puisse y aller avec la voiture. Ouais, ouais. Et des fois, c'est pas évident ici de trouver un bon emplacement. Quoi. Parce que les endroits plats, souvent, ça sert à quelque chose.
Oui. C'est vite utilisé. Ouais.
Voilà.
Est-ce que, alors, comment est-ce que tu vends ta production? Alors, comment tu l'écoules?
Alors, je vends la moitié de ma production en circuit court. Donc en pot, quoi. Et l'autre moitié, un grossiste, un peu plus de l'autre moitié. Enfin, ce qui me reste, je le vends à un grossiste, en fait.
D'accord.
Un fût de 300 kilos. C'est un camion qui vient.
Ah oui?
Il vient, ouais, on charge, et puis ça part.
D'accord.
Et
tu fais des pots, mais tu les vends comment, tes pots?
Alors, les pots, je vends sur le marché à Saint-Off.
D'accord.
Je suis à Super U et Carrefour aussi. Après, j'ai des magasins à droite à gauche, des petits magasins à Saint-Sever, à Camarès. Un peu de bouche à oreille, hein. J'oublie certainement quelques trucs.
Ouais.
Mais voilà, grosso modo, c'est soit chez des magasins qui ont, enfin des fermes qui ont un magasin, des épiceries, le marché, surtout le marché quand même, et après les quelques grandes surfaces qu'il y a à Sainte-Afrique. Quoi.
C'est au marché que tu écoules le plus?
Ouais, c'est au marché que j'écoule le plus, puis c'est là que je préfère l'écouler. Quoi.
Ouais.
Ouais, pour moi, c'est le plus intéressant.
Et c'est cool, t'aimes bien faire le marché?
Ouais, ouais, grave.
Ouais, ouais. Le contact avec les clients et tout ça?
Ouais, moi j'aime bien, puis on s'entend bien avec les autres producteurs, donc il y a une bonne ambiance.
Ouais. Voilà. Donc vous retrouvez entre producteurs de miel et vous parlez...
Pas forcément avec... que non, il y a des producteurs de tout. Hein.
Ouais.
Mais bon, on s'en a une petite équipe, là, on s'entend bien. Mm. Voilà.
Et donc tu as une année de recul pour l'instant en étant installé. Combien tu produis à peu près l'an dernier, tu as produit combien de kilos de miel?
De kilos?
Ouais, de kilos ou de je sais pas quoi, en quelle mesure tu vas parler.
De kilos, mais moi l'an dernier j'avais 200 ruches, j'ai fait 7 tonnes et demie de miel à peu près.
Oh, 7 tonnes et demie!
Ouais.
Tain, ça me fait des pots.
Ça fait beaucoup de pots, ouais. Ça fait beaucoup de pots.
Waouh! Parce qu'il paraît que les productions sont chutes, quoi.
Depuis ouais.
Depuis pas mal d'années.
Après, c'est...
Ça manque de fleurs.
Ouais, ça manque... Il y a beaucoup de paramètres qui font que l'apiculture est de plus en plus dure, quoi. Il y a le problème du réchauffement, du dérèglement climatique, des sécheresses, les fleurs qui sont en manque. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que, ouais, puis ça miel, je sais pas, apparemment, ça, moi j'ai pas le recul parce qu'on parle des années, des fois, d'il y a 20-30 ans, quoi, ouais. Que ça miel moins qu'avant. On a des saisons qui sont beaucoup plus longues aussi, on démarre beaucoup plus tôt. Avant, on attaquait au mois de mars, des fois, fin mars, quoi. Des fois, moi, on a fait des visites de printemps, fin février, il y a 3 ans. Donc les saisons s'étalent, on a des gros trous de mielée sur les saisons qui sont précoces comme ça. Ouais. On a des gros trous de mielée, des moments où il n'y a plus de fleurs. Donc les abeilles, elles font le yo-yo, quoi. Ouais. Voilà. Là, on est au 15 juin et j'ai l'impression d'avoir des colonies qui sont début août, fin juillet, où, où c'est la sécheresse, où elles ne trouvent plus rien à butiner, quoi. Là, on est au début du châtaignier. Donc normalement le châtaignier c'est la mielée ici qu'il faut pas, enfin c'est la mielée d'été quoi, que ça soit châtaignier ou toute fleur sur la ronce, la bruyère et tout, c'est la grosse mielée. Et là on verra, demain ils annoncent 39 degrés là, donc je sais pas, on verra ce que ça fait, faudrait pas que ça grille les fleurs, ouais. Mais bon, faut pas, faut, ça sert à rien de s'inquiéter parce que de toute façon on n'y changera rien.
Oui c'est ça. Et alors avec le recul que tu as, est-ce que on peut dire que tu en vis bien de ton travail?
Ouais, c'est un peu tôt pour dire que si j'en vis bien, parce que j'ai qu'un an de recul. Ouais. Moi, j'avais pour objectif d'en vivre bien, ouais. Ça servait à rien de... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire autant de travail et d'avoir quitté un travail qui est de salarié, où j'avais des horaires quand même beaucoup plus aménagés. Pour en vivre mal, quoi. Je vois pas l'intérêt.
Faut pas être couillon, non.
Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, je me tire un SMIC, et puis à l'avenir, j'espère, en vivre correctement. Ouais. Au début, bon, mais forcément, on fait des économies, parce qu'on a beaucoup d'investissements. Ouais. Donc on essaie de faire de la trésorerie, quoi. Voilà.
Oui, et puis il faut assurer ses arrières aussi, avant on peut se porter au cas où, changer les ruches.
Et puis bon, le miel... Si vous voulez, on vit sur les ventes de l'année d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vends en gros, le camion, il vient en février ou en mars, et je suis payé au mois d'avril ou de mai.
Ah oui.
Donc.
Est-ce que c'est agriculteur, est-ce que c'est un métier que tu conseillerais? Et si oui, sur quoi tu mettrais en garde?
Agriculteur ou apiculteur?
Comme tu préfères. Apiculteur, peut-être tu es plus à l'aise dessus?
Apiculteur, je suis plus à l'aise. Agriculteur, bon, apiculteur, je conseille, oui et non. Il faut être motivé, quoi. L'apiculture, aujourd'hui, c'est technique, quoi. Il faut pas croire que... En ayant des ruches, en les laissant faire, et elles vont faire du miel et vous allez vivre de ça, ça c'est pas possible. Aujourd'hui, si vous voulez faire du miel, il faut suivre les abeilles, il faut y être quoi. On travaille, nous on fait de l'élevage, on fait des rennes, on fait les essaims, on essaie d'amener un peu de génétique, ils viennent de travailler aussi sur la génétique, il y a plein de trucs, de paramètres à gérer quoi. Et après, si vous êtes passionné, que vous êtes vaillant et que vous avez la possibilité de le faire, faites-le, mais par contre, je sais pas, des fois, je vois des gens qui aimeraient faire de l'apiculture, qui ont un boulot qui est bien, qui est stable, qui ont un bon revenu et qui ont des vacances. Mais je leur dis, je sais pas si c'est une bonne affaire de faire l'apiculture. Ouais, réfléchis, il faut faire des sacrifices. Ouais. En fait, la saison, c'est très intense, quoi. C'est un boulot saisonnier, mais en saison, c'est très intense et puis il y a beaucoup de paramètres à gérer. C'est un boulot très physique, hein. Il faut être physiquement quand même au début, là, quand on n'est pas équipé, qu'on n'a pas tous les équipements, il faut...
Oui, quand il faut soulever une ruche.
Voilà, il faut soulever une ruche. On soulève, en fait, on ne fait que soulever du poids tout le temps, que ce soit les ruches, les osses, à la miellerie, pour préparer les ruchers, enfin, il y a toujours un truc à soulever, quoi. Et il faut être accroché physiquement, et puis mentalement, c'est très prenant aussi, parce que... Ben on a les aléas de la météo, et il faut tout paramétrer, il faut avoir un temps d'avance, surtout en fait. Mais quand les châtaigniers vont fleurir, il faut les amener, quand si, à chaque fois, il faut jongler avec ça. Et il faut savoir, telle ruche qui sort à tel rucher, il faut les amener, tel rucher là-bas, parce que c'est un peu plus en retard, les ruches sont un peu moins belles, il y a plein de paramètres comme ça. Et du coup, ça fait que des fois, on sature un peu. Mais après, c'est un boulot passionnant, qui est magnifique. quand c'est quand même, on est des privilégiés de travailler dans des milieux comme ça, sur les ruches.
Ouais, t'as au beau milieu de la nature.
C'est ça, et puis on est libre, quoi. On fait ce qu'on veut.
Est-ce que t'as une idée de... Toi-même, tu évolues dans le milieu agricole. Est-ce que t'as une idée de la tournure que va prendre l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans, que ce soit ton agriculture ici, ou en général, enfin, je sais pas. Est-ce que t'as une idée, déjà?
Une idée, moi, je pense qu'on va s'orienter vers des fermes de plus en plus grosses, avec des agriculteurs qui auront des grosses fermes qui vont récupérer de plus en plus de terrain. Il y aura de moins en... Enfin, c'est mon point de vue. Il risque d'y avoir de moins en moins d'agriculteurs, mais de plus en plus de gros agriculteurs, quoi.
Le modèle qui est en train de se faire en ce moment, quoi.
Je pense. Je pense que ça va se tourner vers ça. Après, je suis pas de même. On a quand même... Enfin, il faut aussi voir le positif, quoi. Il y a quand même des trucs à faire encore. Et on trouvera des solutions pour s'adapter, quoi. Il ne faut pas voir que le négatif, et il faut rester positif, parce que sinon on ne fait plus rien, et ça ne va pas, quoi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. C'est un miel qui a un goût un peu léger caramel. Et quand il cristallise, il est crémeux. Et il prend du goût d'ailleurs. Je trouve que le goût n'est pas le même que quand il est liquide. Là. Et ça fait un miel qui est... Moi, je trouve ça super bon. Quoi.
Et ça se raffine, le miel?
Se raffine, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, tu... voilà, c'est pas le bon mot, raffiner. Tu t'attends un peu pour qu'il soit meilleur, pour le goût, pour mieux le travailler.
Non,
pour...
non pas forcément. Le pinard, en fait, quoi. Non, le miel... Le miel, ça sort.
Dès qu'il sort de la ruche, il est prêt à...
Il est prêt, ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a des miels qui cristallisent plus ou moins vite. Ouais. Et quand ils cristallisent, la texture change, et même parfois, le goût, il change pas du tout au tout, mais il est plus subtil, on va retrouver... Il sera un peu plus fort, un peu moins fort, enfin, certains trucs. Et moi, je trouve que le miel, il a pas le même goût quand on le goûte sur un rayon, qu'une fois qu'il est mis en pot, et que ça fait 2 mois qu'il est sorti, il mature un peu, quoi. Mais bon...
Bon voilà, la centrifugeuse.
Ça c'est un bac décanteur. Voilà. En fait, le miel, je désopercule le miel pour le moment à la main. Ouais. C'est, j'ai deux extracteurs comme ça, ça me permet d'avoir une rotation. Quand un tourne, l'autre il se remplit. Mmh. Et inversement, ça c'est pas mal comme, ouais, comme truc. Et après, ça passe dans un bac décanteur où en fait on met des.
Une grille.
Ouais, c'est des compartiments. Et en fait, le miel, il va passer une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Mmh. Si tu veux, soit ça.
Tu fais un peu un escalier.
Ouais, c'est ça. Soit là, celui-là. Hop là, tu vois, il y a une. En bas, le miel peut passer en bas. Et si tu le tournes, le miel passe en haut.
D'accord.
Et en faisant comme ça, ça le décante. Ensuite, il y a un filtre en fin là, c'est ça. Mmh.
Ouais.
Et ensuite, ça sort là, ça va dans la pompe. Et de la pompe, ça va soit dans le fût, soit dans le maturateur.
Le maturateur ?
Ouais, ça c'est un maturateur. Là, il y en a un petit, ça c'est un gros.
Tu vois, ça sert à quoi, un maturateur ?
Il y a du miel.
Qu'est-ce que t'as besoin de faire maturer ?
Eh bien, regarde. En fait...
Il y a plein de miel.
Le miel, il est... on le met dedans. Et en fait, les parties, les impuretés vont remonter par densité, en fait.
D'accord.
C'est plus léger que le miel. Et du coup, toutes les particules de cire, les poussières, les petits trucs... Ah. On le laisse quelques jours et ça remonte et ça le naturel, enfin, ça épure le miel, quoi, ça le filtre.
D'accord.
Voilà. Donc celui-là, il me faut le mettre en pot la semaine prochaine.
Ah. Et les ruches, c'est toi qui les construis, tu les achètes ?
Je les achète, ouais.
D'occasion, neuf
Moi, j'ai tout acheté neuf. Enfin, non.
D'accord.
En fait, on a racheté au début les ruches d'une apicultrice qui a arrêté. Je sais pas, il y avait 80 ruches ou 100 ruches, un truc comme ça. Et après, j'ai tout acheté. Il y a un magasin là, à Saint-Jury d'Albi. Bon, je veux pas faire de la pub, mais.
Ouais.
Moi, j'ai tout acheté là. Je voulais partir sur du standard, avoir tout pareil, parce que ça, c'est sinon, après, on s'en sort pas, quoi. Ouais. Si on a une ruche qui est pas pareille que l'autre, pour transhumer, c'est le bordel, parce que il va y avoir des hauteurs différentes. Ça va pas bien rentrer sur le plateau. Ouais, ouais. Donc, je voulais tout standardiser, quoi.
Ouais.
Donc là, mon père me prête une partie de son bâtiment. Stocker un peu le matos, quoi.
D'accord.
Donc principalement les os. Hein. Uh-huh. Là, il y a quelques ruches et ruchettes qui sont là ou qui sont là.
Et alors, donc, on voit une ruche avec un tiroir et un accès par le bas.
Ouais.
Et puis à côté, tu as plusieurs tiroirs, si je peux dire.
Des os.
Des os. Tu peux en empiler plein.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Jusqu'à combien ?
Moi, plus j'en empile, plus je suis content. Non, jusqu'à ce qu'on peut monter. Et... Bon, habituellement, quand tu montes à 4 os, déjà, déjà c'est pas mal.
Ça a bien donné.
Ouais, ouais, ça a plus que bien donné.
D'accord.
Mais ouais, tant qu'après, il faut faire gaffe que ça tombe pas, quoi. Mm. Parce que, ou de pas péter les palettes.
Hein.
Oui. Mais un coup de vent ou des trucs comme
et
ça.
C'est ça, ouais.
Mais bon, elles, si elles font du miel, c'est un insecte amasseur. Hein. Donc, plus tant que ça miel, elles vont rentrer du miel.
D'accord.
Donc après c'est à nous de leur mettre de leur faire de la place, quoi. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les os, là il y a les cadres, tu vois, donc on met des cadres dans les ruches. Donc la cire que je récupère, ma cire, je la fais gaufrer à façon chez Rumio là, lui, et puis après ça me fait des belles feuilles de cire.
D'accord, donc t'amènes ta cire chez quelqu'un.
Ouais.
Et elle te fait des gaufres comme
voilà,
ça.
Voilà, elle me fait des feuilles de cire, on appelle ça des feuilles, je sais pas si j'en ai là. Je crois pas. Et après, moi, je viens les fixer sur les fers, là.
Ouais.
Et ça, après, quand on renouvelle les cadres ou qu'on fait des essaims, eh bien, c'est ce qu'on rajoute. Et les abeilles, elles vont les tirer. Uh-huh. Et ça va nous faire des cadres, après, comme ça. Donc,
ouais.
Voilà. C'est une amorce de cire, en fait. Et bien, la cire, voilà, ma cire, là, il y en a une partie qui est là.
D'accord. Et alors, tu fais comment? Après, tu la fais fondre?
Je la fonds, je la filtre, je la fonds. Je fais ça l'hiver ou l'automne, à la fin de saison.
C'est là-dedans que tu as reçu des souches d'abeilles.
Ouais.
Donc, grosso modo, c'est un petit carton comme si on te livrait un colis, quoi.
Alors, attends, je vais te montrer.
Ah, mais mince.
S'il y a une cage.
Voilà.
Une cage à Rennes.
Monsieur Nathan, à Montlore, France. Pof. Ça vient de l'étranger ?
Ça vient d'Hollande, ouais.
Ah, oui.
Wow,
c'est tout petit.
Tu mets ta reine avec quelques abeilles, des accompagnatrices pour la nourrir et tout. Là, tu mets du sucre pour bloquer l'entrée, en fait.
D'accord.
Du coup, tu as ta reine, là, et hop, tu fais ton essaim et tu vas introduire ça dans la ruche. Et les abeilles, elles vont bouffer le sucre et libérer, en fait, la reine.
D'accord.
Au bout d'un certain temps, quoi. Là, c'est le chat.
Ah, c'est le chat, il m'a fait peur. Donc, ouais, il s'agit d'une petite boîte en plastique, hein, avec un couvercle, qui fait quoi 10 cm sur 3 et sur 1 d'épaisseur.
Voilà.
Et tu reçois ça comme ça.
Tu reçois ça comme ça, ouais.
Et elles sont, certifiées LOF et tout ça, là
enfin... Ça, c'est... ouais, c'est un peu le principe, hein. Ça vient d'une... En fait, les souches, soit c'est des reines qui sont inséminées, donc par l'homme. Hein. Donc pour faire des souches, ce qu'il faut, c'est soit avoir des reines inséminées, parce qu'en fait, on vient prendre la semence de bourdon sélectionné d'une ruche qu'on sait l'origine. Donc on vient l'inséminer. Et donc ça donne une stabilité derrière quand on fait des filles qui est beaucoup... C'est quelque chose de stable.
D'accord.
Donc soit inséminé, soit fécondé sur île, parce que là, sur île, on peut choisir nos mâles de certaines ruches sur des îles et que les reines, elles se fassent féconder. S'il n'y a que ces mâles-là, elles se font féconder que par ces mâles-là. Ben, si tu vas aller voir les ruches, on va quand même s'habiller.
Ah, non. Je vais pas me faire piquer, hein.
Ben ça, on verra. Non, normalement, non.
Donc nous voilà en tenue de cosmonaute. Donc le fumoir, ouais, qu'est-ce que tu mets comme plante dans le fumoir?
Moi je mets la paille. Hein.
Peu importe.
J'en ai partout. Je mets de la paille et après je mets du... J'ai de la luzerne déshydratée. Ah. C'est des granules en fait. Et ça a l'avantage que ça dure longtemps et que j'en mets une fois et ça me tient toute la journée.
D'accord.
Voilà pour ce qu'on va faire. J'ai pas besoin de granules. Mais... ça et après tu mets une petite... un peu d'herbe verte sur le dessus pour pas que la chaleur soit, la fumée soit chaude.
Ouais.
Là on est parti. Ouais. Je vais chercher de l'herbe.
Donc là on voit pas mal d'abeilles en activité quand même.
Ouais, elles ont chaud. Alors là, hier j'ai fait des essaims là, donc il y a pas mal de ça. Tout ça c'est des essaims que j'ai fait hier. Ben en fait j'ai reçu ces reines là qui m'a fallu introduire. Parce que... Donc il m'a fallu faire des essais.
Et donc elles sont déjà en train de travailler quoi.
Voilà, ouais, elles ventilent beaucoup. Ah. Si elles, tu vois, là je pense qu'elles vont beaucoup chercher d'eau aussi.
Ouais.
Pour rafraîchir la ruche quoi.
Tu leur mets de l'eau des fois t'as...
Non mais il y a le canal dessous là en fait. Ah, ouais. C'est juste dessous.
Le fameux canal de Montlore.
C'est ça, il est juste là.
Ok.
Donc elles l'ont pas loin quoi.
Ouais.
Voilà, on va ouvrir une ruche si tu veux.
Allez.
On va ouvrir celle-là.
Donc en voilà une qui a une hausse.
Ouais. Donc la hausse c'est le compartiment. Et le toit il est brûlant. C'est ouais. Le compartiment du. Où on fait du miel quoi. Mmh. Ça c'est un couvre-cadre, ça c'est un nourrisseur. C'est quand on vient nourrir.
D'accord.
On leur met du
sirop. Tu nourris avec quoi? Du sirop.
D'accord. Et là elles font le miel.
Et voilà.
Donc là il y a un peu de miel, mais c'est. Ça c'est du, miel, du vieux miel. Hein.
Ah ouais.
Enfin du vieux miel. On voit que c'est du miel qui a un moment qu'il y ait quoi. Donc là tu vois elles l'ont operculé, elles ont mis une couche de sirop. Et là, encore, elles l'ont pas operculé.
C'est juste qu'elles n'ont pas pris le temps de le faire ou c'est
ouais,
un choix.
C'est ça. C'est ouais. Soit qu'elles l'ont pas pris, soit qu'elles s'entraînent de le rebouffer.
Uh-huh.
Parce que ça, elles peuvent le rebouffer. Soit habituellement quand elles l'operculent, c'est que la mielée est finie. Et c'est leur manière en fait de le stocker quoi.
D'accord.
Elles le stockent comme ça, elles l'imperméabilisent. Donc, tu vois, ça c'est un cadre de rive.
C'est clafi d'abeille.
Et tu vois ça. S'il y a deux gouttes, tu vois quand tu fais ça, en secouant le cadre, tu vois si ça miel. Là il y a deux gouttes, donc c'est que...
Il n'y a pas beaucoup.
Non, ça mielote, c'est...
Et petit. La larve, quand elle naît, c'est une abeille formée, quoi, déjà. Elle est prête à les butiner.
Non.
Non.
Non, non, elle naît, elle a plusieurs... Avant d'être butineuse, la butineuse, c'est la toute fin du processus.
Ouais.
Avant d'être butineuse, elle a plein d'autres... Au début, je crois, elle est nettoyeuse. C'est-à-dire elle vient, elle nettoie tout, il y en a plein d'étapes, elle peut être cirière, elle peut être... Et à la fin elle est butineuse au bout de 15 jours à peu près d'existence. On va essayer de voir la reine. Elle est marquée cette reine, elle a un point sur la tête.
D'accord. Mais elle ne se distingue pas physiquement des autres abeilles
si. Ah. Elle est là la reine.
Alors. Ah oui, tu as mis...
Pour moi qui
donc,
est venu,
mais... elle a une
capsule
sur le dos.
Ouais, une petite capsule.
Elle est quand même plus grande, elle a un abdomen surtout qui est plus grand que les autres.
Ouais, c'est ça, elle est plus grosse, plus longue.
Et comment ça se fait qu'elle se balade? Quand elle se balade, c'est elle qui va choisir les alvéoles dans lesquelles elle va pondre?
Ouais, elle va là où il y a des trous, quoi.
D'accord.
Souvent.
Là, faut faire gaffe, tu vois, elle est passée derrière, de quand tu remets le cadre, de pas la...
De pas l'écraser, ben ouais, t'as perdu la colonie, sinon.
C'est ça. Enfin, là, ouais, elle va se refaire, la colonie, si tout va bien. Elle est dessous, là, je la vois. Elle aime pas la lumière, la reine, donc en fait, quand tu tournes un cadre, elle passe souvent derrière, et ouais. Vice-versa. Ouais. Donc voilà, là, on a fait le tour à peu près de cette ruche, là. Et tu vois, il y a un mâle qui s'est coincé. Donc là, après, on peut remettre, là... Le dernier cadre, la grille à reine, ouais. Et on replace. Putain, c'est un peu lourd quand même, si tu veux
soulever. Non, non, je te crois.
Faire la manutention.
Eh bien, Nathan, je te remercie d'avoir pris du temps.
Et merci à toi, avec plaisir.
Voilà, et puis bonne continuation.
Et merci.
Tous nos remerciements à Nathan pour son chaleureux accueil et nous lui souhaitons que des bonnes choses pour la suite. Retrouvez cette émission et bien d'autres délices sur notre site internet radiosaintafrique.com. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.